Il nous arrive d'animer des conférences. Ce fut le cas le 26 octobre à Digne, où nous avons parlé climat, air et énergie avec des invités de Provence-Alpes Agglomération. Animation François Malabab et à la technique Mario Poncelet.
Dans le cadre de la journée de réflexion et d'action proposée par Provence-Alpes Agglomération à Digne le 26 octobre 2019 sur son plan climat, air, énergie territoriale, nous avons animé une réunion passionnante sur le thème de l'eau. Ressource importante sur ce territoire qui compte plusieurs cours d'eau et retenues naturelles ou artificielles, l'eau est nécessaire pour l'alimentation ou l'irrigation, mais elle est aussi une matière vivante, fragile et menacée. Consommation excessive, gaspillage, pollution diverse ou évidemment période de sécheresse, l'eau commence à manquer et l'inaction serait suicidaire. D'où l'importance de l'action engagée à Digne qui favorise des partenariats et sollicite les citoyens en plusieurs occasions. Dans une journée bien remplie autour du plan climat, nous avons accueilli plusieurs personnes représentant des organismes, institutions ou associations pour une table ronde riche en informations et échanges. Vous entendrez dans un instant Sandrine Albedel, directrice à la direction de la connaissance du territoire et réseau d'acteurs de l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, puis Anaïs Leroux, représentant Volubilis, un réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages, coordinateur chargé de mission en production végétale, AgriBio 04 et Bio de PACA, Mathieu Marguerie rappellera combien l'eau est nécessaire pour l'agriculture. Le sociologue Michel Teul, membre du collectif Autre, parle d'un projet de coopération leader en France, Portugal et Algérie sur le concept de nouvelle culture de l'eau. Et enfin, dernier intervenant, Daniel Munk, coordinateur de l'Institut languedocien de la pierre sèche, au syndicat mixte des Gorges du Gardon, conclura ses interventions.
Bonjour à tous, je me présente donc, je suis François Malabab, directeur de la radio Fréquence Mistral. J'ai le plaisir d'animer un temps fort de cette journée dinoise consacrée au plan climat, air, énergie territoriale. Je serai aussi, je le dis pour nos intervenants, le garant du temps écoulé afin de respecter le timing prévu et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je demande aux intervenants donc de respecter ce timing, de bien vouloir éviter aussi les sigles, les jargons qui leur sont familiers mais inconnus souvent du grand public, dont je serai un humble représentant. Merci à tous donc. J'ajoute qu'il sera possible d'intervenir à chaque fin de présentation si vous le souhaitez. Il faudra faire court, s'il vous plaît, et poser des questions sans en donner soi-même la réponse. J'ai aussi pour mission de favoriser les échanges et vous signale que les personnes qui sont à mes côtés sont également disponibles après cette table ronde et pour certaines même cet après-midi. Si en matière d'environnement, personne ne détient la solution idéale, il y a cependant des pistes, des initiatives, voire des collaborations à imaginer et mettre en œuvre. C'est le but de cette heure que nous allons passer ensemble. L'eau potable, non potable ou traitée, c'est un enjeu majeur pour les territoires et plus particulièrement pour celui de Provence-Alpes-Agglomération, où se trouvent des rivières, cours et retenues d'eau, une activité thermale importante et une présence humaine et agricole soutenue. Peut-on prévoir et engager des actions sur ce territoire? Certaines existent déjà, comme le contrat de rivière, mais sont peu visibles par le public. Et puis, comment pouvons-nous aussi agir en tant que citoyen dans notre vie quotidienne? C'est le sens de cette table ronde. Avec plusieurs intervenants, j'ajoute que celle-ci est enregistrée et sera diffusée prochainement sur les ondes de Fréquence Mistral de Briançon, où naît la Durance, jusqu'à Manosque en passant par Digne. On ouvre tout de suite les travaux avec ma voisine à côté, Sandrine Albedel. Vous êtes directrice à la direction de la connaissance du territoire et réseau d'acteurs de l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, l'ARP. Vous allez dresser un état des lieux de la biodiversité en région et établir les liens avec le climat et ses changements.
Merci de me donner la parole. Comme on a parlé tout à l'heure de la biodiversité, je vais essayer de faire des ponts, mais c'était plutôt sur les enjeux de l'eau à l'échelle régionale pour qu'on fasse écho et par rapport notamment au changement climatique. Donc je vais insister là-dessus, mais je suis disponible pour les questions en écho sur la biodiversité. Vous avez cité l'Agence régionale pour l'environnement et l'Agence régionale de la biodiversité. Donc cette agence a été créée cette année au 1er janvier et elle s'appuie sur une agence qui existe depuis 40 ans, qui est l'Agence régionale pour l'environnement. Elle a été permise par la signature d'une convention entre 5 signataires et qui est liée à une loi qui est du 8 août 2016 sur la protection de la biodiversité, enfin c'est la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi a positionné la région comme chef de file sur la biodiversité au niveau des territoires. Et donc, les acteurs se sont unis. Alors, les acteurs, ce sont l'État, la région, l'Agence de l'eau, l'Agence française de la biodiversité et l'Agence régionale pour l'environnement pour créer cette Agence régionale de la biodiversité. On a quatre axes hein, dans cette agence. C'est accompagner les territoires pour faire de la biodiversité une opportunité d'action nouvelle et d'innovation sur les territoires, pour améliorer et valoriser les connaissances sur la biodiversité. Ça, c'est le deuxième axe de l'agence. Le troisième, c'est d'informer, sensibiliser, former, éduquer sur cette question de biodiversité. Et puis, de rassembler des acteurs au sein de réseaux. Ça, c'est le quatrième axe de notre agence, pour travailler ensemble sur la protection de la biodiversité. Voilà pour l'agence. Alors, qu'est-ce que on fait? On travaille aussi donc sur les questions de l'eau, de la préservation de la ressource en eau. Et donc, pour ce qui est des enjeux régionaux, en termes d'eau, on a plusieurs entrées. On a une région qui a une grande diversité naturelle qui résulte de la topographie, de la géologie, de la météorologie spécifique que nous avons en région. Et donc, la résultante, c'est que nous avons juste la bagatelle de 46 000 kilomètres de linéaires de cours d'eau dont il faut s'occuper en région. Et pourquoi il faut s'en occuper? Parce que ce sont ce qu'on appelle des masses d'eau superficielles qui permettent aujourd'hui notamment d'approvisionner en eau potable, d'assurer de la production hydroélectrique, d'assurer une attractivité touristique, d'assurer aussi des réservoirs de biodiversité. Donc ces masses d'eau sont très très importantes pour nous. Ce sont des réservoirs, ce qu'on appelle nous des réservoirs biologiques. Et donc ces masses d'eau, ben, on aimerait bien avoir 100% de bonne qualité. C'est pas le cas. Quand on regarde nos masses d'eau superficielles, 60% des masses d'eau superficielles sont en bon état écologique, ce qui veut dire que le restant 38% pose souci, ce qui est important. 75% des masses d'eau superficielles sont en bon état chimique, donc quid des 25% restants. Pour les eaux souterraines, donc ça, c'est une entrée importante puisque ce sont des ressources en eau aussi importantes. 91% sont en bon état quantitatif et 81% en bon état chimique. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur le reste et qu'il faut surtout pas laisser ce problème s'agrandir. Donc je le dis, c'est une ressource écologique. On a 177 masses d'eau protégées. On a 20 plans anguilles pour protéger ces espèces-là. Et c'est une région, on le sait, qui est sous pression. Donc on a c'est la deuxième région de France, hein, il faut le dire. Tout à l'heure, ça a été dit par l'intervenant précédent à l'échelle départementale ou l'échelle du territoire, pardon, de l'EPCI, vous avez dit pas de sigle. Donc, de Provence-Alpes agglomération, je vais le dire en toutes lettres. On est la deuxième région de France en termes de nombre moyen d'arrêtés de catastrophes naturelles. Donc, on n'est pas bien placé. Donc, ce sont ces enjeux-là qu'on a à gérer, puisque ça déséquilibre tout ce qu'apportent ces masses d'eau. Je vais passer les détails, je vous répondrai aux questions si jamais il y a des questions sur ces sujets-là. Aujourd'hui, grâce à ces linéaires de cours d'eau, on a de la production hydroélectrique, on a de l'agriculture et de l'irrigation, on a de l'industrie qui peut se développer, on a de l'alimentation en eau potable, c'est important, ça a été évoqué tout à l'heure, et on a du développement touristique qui se fait. Donc, ces aménagements ont été notamment faits, hein, tout le monde le sait, avec le projet conduit dans les années 1970 de la création du canal de Durance et dont son principal affluent qui est le canal du Verdon. Et donc, ce système-là assure aujourd'hui 86% des usages en eau. Donc, c'est un système important. Donc, on se dit que les acteurs ont agi pour qu'on puisse assurer l'approvisionnement en toute source d'eau. Malheureusement, on a altéré en faisant ces aménagements des fonctionnalités naturelles. Et donc aujourd'hui, on a modifié le régime des écoulements, donc on a accentué les principes de frein à l'écoulement, donc ce qui accentue aussi le problème des inondations. On a un moins de bon écoulement des sédiments. On a une flore et une faune qui est aujourd'hui coupée par ces infrastructures qui ont été construites. Et donc on a aussi des risques d'inondations. Face à ces constats, on a aussi cette problématique qui a été évoquée toute la matinée de la pression liée au changement climatique avec une augmentation des températures qui change aussi l'équilibre des cours d'eau et également le régime des précipitations. Et ça a été dit aussi, on a un problème du coup de prévision. On ne sait plus exactement ce qui va se passer. Donc comment agir quand on ne sait plus exactement ce qui va se passer parce qu'on a une incertitude de l'impact du changement climatique. Et puis on a le corollaire, ça a été dit aussi sur la pression démographique qui est constante et qui vient encore suraccroître cette pression et ce déséquilibre potentiel. Donc les acteurs agissent, ils se réunissent, on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu c'est vraiment de travailler tous ensemble pour arriver à maintenir cette ressource en eau au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. L'exemple qui était cité tout à l'heure sur Provence-Alpes agglomération était assez probant, puisque on doit tous assurer à court, moyen, long terme l'approvisionnement en ressources en eau sur le territoire régional. Donc on se doit d'agir sur les réductions de consommation, je ne vais pas revenir sur cette nécessité-là qui a été bien expliquée, et donc d'agir durablement pour cette protection de l'eau.
Si j'ai bien compris, on est plutôt bien loti dans le département et sur ce territoire. Est-ce qu'on fait assez en termes de préservation de cette ressource ?
Le jour où on aura 100% de qualité, je dirais oui. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a des acteurs qui font, je l'ai pas dit, mais on a plus de 60 gestionnaires qui interviennent sur le territoire régional, qui sont réunis dans un réseau qui s'appelle le réseau des gestionnaires d'espaces naturels, des gestionnaires de milieux aquatiques. Et donc, ce réseau-là se réunit pour agir sur ce qu'on appelle l'ensemble des cours d'eau et des bassins versants, puisque c'est au niveau des bassins versants que ça se passe. Ce qui se passe en amont des bassins versants, se retrouve en aval. Je vais citer un exemple, par exemple, sur la pollution plastique, donc les micropolluants qu'on peut avoir ou les macropolluants qui se retrouvent dans nos cours d'eau et qui, donc là aussi, créent un déséquilibre. Donc, on a une mission qui est portée aujourd'hui sur la région pour enlever ce plastique, qui s'appelle Zéro Plastique. Et donc, il y a une vraie action nouvelle qui est conduite là-dessus. Donc, aujourd'hui, les enjeux sont tellement forts qu'on essaye de faire avec les moyens qu'on a. C'est petit à petit qu'on arrive à avoir des résultats. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas tous ces acteurs-là. Donc, on arrive. Enfin, moi, je trouve vraiment que l'intervention qui était faite sur cette régie en eau qui montre que on doit passer de 40% de gaspillage à 30% de gaspillage pour arriver à maintenir un prix de l'eau, on est clairement dans ces enjeux-là. Donc, oui, il y a des actions qui sont faites, certainement pas assez, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et ça permet de maintenir aujourd'hui un approvisionnement en eau qui reste à un même niveau de prix.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement que vous pourriez poser? Je crois que Nicolas a un micro.
Oui, Nicolas Morel, Provence-Alpes agglomération. Juste peut-être un témoignage pour faire un lien entre cette table ronde et les actions sur les territoires menées par différentes collectivités, P2A, mais on a aussi notre témoin aujourd'hui, c'est Coralie Imbert de la métropole Aix-Marseille-Provence. Coralie, dans votre PCAET, dans votre plan climat, donc, comment avez-vous pris en compte la question de l'eau? Je crois qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont inscrites. Peut-être nous en citer une ou deux emblématiques de votre action sur le territoire de la métropole.
Oui, effectivement, la ressource en eau, c'est un enjeu aussi sur notre territoire. Donc il y a un axe du programme d'action qui est dédié à cette question. Une action un peu emblématique, c'est celle peut-être qui concerne la réutilisation des eaux usées traitées. Donc il y a une étude qui est en cours pour savoir dans quelle mesure on pourrait réutiliser cette eau pour l'irrigation agricole, sachant que c'est une eau qui ne retourne pas au milieu, qui ne sert pas à un soutien d'étiage, parce qu'il n'y a pas de cours d'eau sur cette zone d'étude et sur ces territoires. Donc on aura les résultats prochainement pour ensuite essaimer la démarche sur l'ensemble du territoire. Autre action, c'est une étude aussi qui vise à étudier la ressource karstique, qui est très importante dans le bassin de l'Uvonne, de mieux connaître en fait sa provenance, son évolution dans le temps, faire des essais de pompage et mieux connaître en fait le lien entre la nappe et le cours d'eau.
Merci Coralie. On va continuer avec Anaïs Leroux qui va prendre le relais. Anaïs, vous représentez Volubilis, c'est un réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages. Et dans nos paysages, on a besoin d'eau évidemment, et nos paysages ici, c'est beaucoup l'agriculture et les forêts.
Oui, alors tout à fait. Donc je représente un réseau méditerranéen pour la ville et les paysages. En ce sens, ce qui nous importe dans un premier temps, c'est vraiment de fédérer un lien entre les hommes et les territoires, puisque le paysage est l'affaire de tous, mais le paysage est aussi la résultante non seulement d'une dimension naturelle, mais aussi d'un façonnage par tout à chacun, c'est-à-dire nous tous, les humains. Alors l'eau a donc toujours été un sujet endurance, dans les paysages de durance, et l'adaptation aussi. Alors, c'est vrai que avant de partir vers le futur, je pensais important de faire un pas vers le passé et de rappeler ô combien la durance a été un sujet durant des décennies, voire même des milliers d'années, et que l'eau en général, les Romains en témoignent, mais le monde du Moyen-Âge aussi, notamment avec les moines, ont drainé, essayé de capter et se sont protégés donc de ces eaux tumultueuses telles qu'on a pu les connaître pendant longtemps. Et il faut se rappeler donc que les premières canalisations datent principalement ici en Durance du XIIe siècle, avec le canal Saint-Julien donc qui passe à Cavaillon. Dire aussi que on est tous un peu interdépendants puisque bon moi-même l'association est basée sur Avignon et donc on est en vallée du Rhône, mais la Durance se jette dans la vallée du Rhône avant même d'avoir été un fleuve par deux fois avec deux deltas différents au niveau de la plaine de la Croix. Et donc, voilà, dire qu'on est tous interdépendants, puisque si on arrive aujourd'hui à avoir une agriculture depuis une centaine d'années, notamment dans le comtat venaissin, mais tout particulièrement aussi dans la Croix ou dans les Alpilles, c'est bien grâce à la Durance et grâce à ces nombreux canaux qui ont pu être réalisés donc au XIIe, au XVIe et puis dernièrement au XXe siècle, les canaux, le canal EDF que vous venez d'évoquer tout simplement. Alors, pour répondre à votre question liée à l'agriculture, les hommes se sont installés donc au tout départ sur des pierrées qu'ils ont donc limonées grâce au limon qu'apportait la Durance et à la fois ont asséché des marais sur lesquels ils ont essayé de faire sortir l'eau. Et donc c'est toute cette difficulté qui a été mise en place. Et donc ça donne un petit peu d'espoir finalement sur notre adaptabilité potentielle puisque ces hommes ont travaillé de manière très laborieuse pendant des décennies pour arriver à mettre en place les territoires agricoles tels qu'on les connaît aujourd'hui, ces territoires limoneux de part et d'autre de la Durance sur lesquels se sont installés ensuite des fruitiers et du maraîchage principalement. Et on peut se dire que certes, le changement climatique va devoir nous faire avancer très vite, mais peut-être grâce aux techniques, si tant est qu'elles n'épuisent pas toutes nos ressources, on va peut-être pouvoir trouver des solutions qui vont nous permettre d'accélérer nos réponses. Donc voilà pour ce petit mot d'espoir potentiel. Alors, pour en revenir à l'agriculture et à ce qui peut-être se fait ou pourrait se faire davantage, effectivement, pendant longtemps, le lit de la rivière se déplaçant et ça a créé quelques ravages agricoles de temps à autre. Se rappeler aussi que au préalable, les hommes sont descendus des collines vers la vallée et que ça n'a pas été fait comme ça dès le départ. Dans un premier temps, on a effectivement mis en place des terrasses qui nous ont permis de nous protéger donc de ce lit de la rivière assez tumultueuse. Et voilà. Donc en termes de solutions qu'on pourrait mettre en place, c'est vrai qu'une problématique qu'on se pose en Provence en général et peut-être tout particulièrement ici, c'est notamment des techniques de réimplantation de haies qui permettent d'éviter le ravinement très important qui peut y avoir quand il y a des crues ou disons des épisodes pluviométriques assez importants et donc qui permettent de stabiliser l'eau et surtout de l'infiltrer, enfin ce qu'on appelle infiltrer à la parcelle, alors c'est-à-dire qu'elle s'arrête dans le système racinaire des arbres et qu'elle descende comme ça vers la nappe phréatique avant de s'écouler très rapidement vers les rivières et donc de parcourir de leur chemin jusqu'à la mer. Et donc dans un certain sens, elle nous échappe. Alors d'autres techniques sont aussi mises en place en termes d'agriculture aujourd'hui. On met en place notamment... on sait aussi que depuis quelques années, on sait aussi que l'utilisation des pesticides, notamment, a détruit une partie de la flore et de la faune qui avait à l'intérieur de ces terres, et donc que l'eau a moins de capacité à retenir aussi, a moins de capacité à retenir l'eau, ce qui peut poser quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, on essaye de pallier à ça de plus en plus. Et puis, toujours dans cette dynamique de redynamisation des sols, on met en place toute une régénération qui peut s'opérer notamment empruntée à la forêt avec la décomposition des matières organiques telles que certains peuvent la rajouter aujourd'hui. Donc voilà pour la partie agricole. Pour la partie forêt, c'est vrai qu'il y a un impact peut-être un peu moindre, enfin une interaction un peu moindre avec l'eau, puisque les forêts historiquement donc sont plutôt installées sur les collines et donc un peu plus en hauteur et donc pas tout à fait dans le lit de la vallée. Et l'épisode de la forêt, donc on l'a connu, la forêt, elle a été déforestée à partir du Moyen-Âge, et puis progressivement, l'élevage s'est installé, etc. Et donc on a reforesté dernièrement, puisqu'on s'est rendu compte effectivement au XXe qu'il y avait des ravinements très importants qui démarraient depuis le sommet des collines, voire des montagnes, et qui glissaient très rapidement vers les lieux d'habitation, notamment installés dans les plaines, qui représentaient donc un fléau assez important par rapport à ça.
Alors les forêts, les paysages et également les ressources en eau, mais c'est un vecteur touristique essentiel dans ce territoire.
Oui, alors Je pense que le paysage est un vecteur touristique, mais je... Bon, ça, c'est un... C'est, je ne représente pas forcément Volubilis quand je dis ça, mais juste à titre personnel. Mais c'est vrai que je pense que le tourisme n'est pas non plus la solution. C'est une solution qui nous rapporte une économie, certes, mais je pense que le paysage est bien plus large que simplement cet axe touristique. Et que, en remettant un peu de sens, comme vous l'évoquiez, Monsieur Teul, ce matin, je pense qu'effectivement, le paysage du quotidien est aussi important. Le paysage de nos agriculteurs est important. On leur demande de plus en plus, par exemple, si... On évoque la question de l'irrigation. Le drainage s'est fait grâce au travail de l'homme. Et aujourd'hui, on voit des territoires agricoles dénudés, c'est-à-dire avec très peu de présence humaine. Or, on a tous besoin, effectivement, d'avoir ces paysages tels qu'on les connaît, drainés notamment, etc. Et donc, on a tous besoin aussi de mettre un peu la main à la pâte pour pouvoir entretenir ce cadre de vie dans lequel on vit. Et je pense que seule la raison touristique n'est pas fondamentale. Je pense qu'il faut se reconnecter au lieu dans lequel on vit. On vit aussi dans une société où les gens sont très mobiles. Et donc, quand ils arrivent quelque part, ils n'ont pas forcément des ancêtres qui peuvent leur transmettre quelque chose. Et donc, à ce niveau-là, et je pense qu'on l'évoquera cet après-midi, je pense que la notion d'observation va être une donnée fondamentale pour pouvoir nous adapter au milieu dans lequel on est, et notamment aux changements très rapides qui vont s'effectuer sur ces prochaines années.
Vous évoquez cet après-midi, c'est la promenade et la conférence qui aura lieu en haut, Géoparc, à Digne, où il y aura effectivement beaucoup d'informations pratiques qui seront données. Est-ce que quelqu'un veut intervenir éventuellement, poser une question ?
J'avais une question par rapport à ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on n'est pas forcément dans des territoires où on a une transmission qui a été faite et où on perd finalement des savoir-faire. Et je me demandais si par rapport à l'eau... est-ce que on peut s'attendre, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, à ce que la technique soit quelque chose qui soit plutôt de l'ordre positif et des solutions, ou est-ce qu'on peut imaginer devoir revenir ou pouvoir revenir à des low-tech, donc l'inverse en fait, des technologies qui ne soient pas forcément liées à l'informatique ou des choses un peu complexes, des savoir-faire qui ont été perdus avec les canaux, etc., qui ont été mis en place. Vous parliez tout à l'heure du 16e siècle, du 17e siècle. Est-ce que c'est par là aussi peut-être qu'on va pouvoir trouver des solutions, donc pas vers les high-tech, mais vers les low-tech?
Alors oui, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je pensais pas forcément au high-tech, justement. Mais disons, les techniques telles qu'on a pu les mettre en place, peut-être ne serait-ce que la mécanique qui nous permet quand même de réaliser un travail que seul un homme tout seul n'arriverait pas à faire. Or, grâce aux techniques et à la mécanique notamment, on y arrive. Bon, ça pose d'autres questions environnementales, bien entendu. Mais oui, je pense, et c'est ce que j'essaye de dire en disant qu'il va falloir apprendre à observer davantage le milieu dans lequel on s'insère, c'est justement revenir à des choses très simples, de terrain, sur lesquelles on va peut-être pouvoir interagir de manière plus intelligente avec l'écosystème dans lequel on s'insère, tout simplement. Oui.
Une autre question éventuellement ?
On constate par rapport au changement climatique qu'en montagne notamment, l'effet c'est les orages courts, mais de plus en plus négatif au niveau des dégâts et qui vont coûter de plus en plus cher au niveau de la réparation et de la restauration, même si on fait appel à l'observation. Et qu'en est-il des financements qui pourront être mis en place pour cela par rapport aux collectivités?
Je ne sais pas qui peut répondre sur ce plateau à cette question, qui est une question fondamentale, effectivement, parce que le problème va s'accentuer les années prochaines. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Nicolas, peut-être ?
La prise en compte du risque, notamment à travers la loi GEMAPI, compétence reprise par l'agglo, prévoit effectivement des dispositifs de lutte contre les inondations. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations. Donc tous les travaux que vous voyez actuellement entrepris dans la Bléone et qu'on verra cet après-midi sur le terrain avec la chargée de ces travaux du syndicat mixte d'aménagement de la Bléone, tous ces travaux visent aujourd'hui à protéger les biens et les populations. Je pense que ça peut faire partie effectivement de ce type de protection.
Je vais plus loin, Nicolas, parce qu'on a discuté de cela en montagne il n'y a pas très longtemps avec une maire et une conseillère régionale. C'est que la loi GEMAPI, sauf erreur de ma part, impacte sur les collectivités territoriales et ces enjeux sont au-delà des financements des collectivités territoriales, sauf erreur de ma part.
Sandrine Albedel voulait intervenir également.
Sandrine Albedel, oui.
Je proposais de faire un petit complément là-dessus. Effectivement, Je vous rejoins tout à fait. Ce ne sont pas seulement les collectivités qui se doivent de porter ce risque-là. C'est elles qui sont impactées les premières, mais on sait très bien que la limite frontalière dépasse la limite souvent de la collectivité, qu'elle soit commune ou établissement public de coopération intercommunale, hein, donc un regroupement de communes. Et on a des acteurs à différents niveaux. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est qu'en fait, au vu des enjeux, au vu des problèmes de prévision qu'on a, vous le dites, les précipitations sont de plus en plus fortes, de plus en plus courtes et sont aléatoires. On n'arrive pas à les anticiper du tout. Les impacts du changement climatique, on ne sait pas les anticiper. Donc on a un problème d'existence de modèles de précision, de prévision, pardon, qui puissent nous donner les outils pour prendre l'aide à la décision. Et si on n'agit pas collectivement, chacun avec notre degré de connaissance et l'action, c'est pas seulement les collectivités. Donc il y a évidemment l'État qu'on retrouve dans la dynamique avec notamment l'Agence de l'eau qui finance de nombreuses opérations d'aménagement. J'ai des exemples en tête où on a dans d'autres régions des linéaires de cours d'eau, de grandes rivières, qui étaient rectilignes parce qu'on voulait un écoulement plus fort pour des productions hydrauliques et qui sont repartis sur des serpentins, enfin des sinueux, des méandres, je cherchais des méandres, pour justement favoriser un bon écoulement des eaux qui évite ces inondations. Cela demande des moyens, donc la collectivité va intervenir, mais l'État aussi. Et puis pour connaître aussi ça, c'est pas seulement ces acteurs-là, c'est aussi nous, la société civile, qui pouvons apporter aussi nos connaissances et nos propositions d'action en commun. Donc ce sont toutes ces organisations qui se mettent en place. Je rappelle qu'il y a ces 60 gestionnaires qui existent sur le territoire régional, qui regroupent plusieurs collectivités regroupées parfois, et qui agissent sur des bassins versants. Et c'est cette intelligence-là d'agir sur des bassins versants qui permet à un moment donné d'atténuer les problèmes. L'action est longue. Quand on décide de recréer des méandres, ça ne se fait pas en deux jours.
Les ouvrages sont violents et que les actions... Il faut les faire rapidement parfois, pour les collectivités.
On est toujours dans la capacité de réaction puissance publique et
voilà. Les événements. Donc la puissance publique aujourd'hui finance un réseau. Je réponds juste sur ce point-là. Quand il y a des catastrophes, hein, la dernière grande catastrophe, c'était en 2010 sur toute la Dracénie. Le réseau régional des gestionnaires d'espaces des gestionnaires de milieux aquatiques s'est réuni en une action solidaire pour aider les collectivités impactées à agir et à prendre des mesures correctives immédiates et puis à plus long terme. Donc il y a une solidarité territoriale, je crois que c'est ça qui est important, qui se constitue parce que malheureusement on ne sait pas où ça va taper. Et quand ça tape, il faut qu'on s'unisse pour pouvoir agir collectivement. Après, on peut faire des choses plus structurelles.
On va prendre une dernière intervention, on va passer à un autre intervenant, oui.
Oui, je pense qu'il faut aussi remarquer quelque chose qui est très important, c'est la sensibilisation des plus jeunes en milieu scolaire, par exemple, où des associations interviennent pour sensibiliser à l'éducation, à la protection des milieux aquatiques, par exemple. C'est quelque chose qui est fait sur le territoire, en particulier dans le cadre du contrat de milieu Bléone et affluent. Donc ça, c'est des actions qui sont très importantes. Il y a des actions aussi auprès des lycées, avec le soutien de la région Sud, pour sensibiliser les jeunes au changement climatique, pour s'adapter, comprendre ces enjeux, et que les plus jeunes soient vraiment une force de proposition, une force d'action sur notre territoire.
Ils sont très souvent dans la rue, le vendredi d'ailleurs en ce moment, les jeunes, pour justement évoquer ces questions-là. On va passer le micro à un autre intervenant. Vous le savez, le statut de l'eau, c'est très très vaste. Eau potable, non potable, eau usée, la ressource coûte cher, mais elle est nécessaire aux agriculteurs, elle est vitale. Mathieu Marguerite, vous êtes coordinateur chargé de mission en production végétale à Agribio 04 et bio de PACA. Vous avez la parole.
Merci, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du côté aussi agricole de l'eau, parce que c'est mon travail au quotidien. Et en climat provençal, en climat méditerranéen, ça a été évoqué un peu, l'eau pour les agriculteurs c'est quand même une ressource précieuse, parce qu'on a un climat qui est de plus en plus atypique, qui est de plus en plus violent, et les agriculteurs doivent au jour le jour composer avec ça, ce qui n'est pas évident. Juste un chiffre pour commencer. Quand on discute avec les collègues de Météo France là, qui travaillent sur la région PACA ou sur le bassin méditerranéen un petit peu élargi, ils nous disent aujourd'hui il y a 1% des jours dans l'année où on a un climat qu'ils considèrent atypique, c'est-à-dire qu'il s'écarte vraiment des normales, c'est-à-dire ce qu'on a eu un peu dernièrement, là, énormément de pluie en très peu de temps, donc on va avoir l'équivalent de plusieurs semaines, voire de mois de pluie en une ou deux journées. ou ce qu'on a eu au mois de juin, c'est-à-dire des températures très très élevées, à plus de 40 degrés, etc. 1% des jours actuellement, c'est ce que nous dit Météo France. 1%, ça fait 3, 4, allez, 5 jours par an. Et en 2050, ils nous disent que ce sera 30% des jours. C'est-à-dire 120 jours par an. Alors, ça, c'est la traduction du changement climatique à plus de degrés. Sachant que les plus réalistes nous disent qu'on est déjà au-dessus. Donc, mettez-vous à la place d'un agriculteur qui doit composer avec ça. Parce que c'est pas... C'est-à-dire que ça fait comme ça, le climat. Il va faire comme ça, quoi. On va avoir des épisodes de pluie très violents à un moment. Et puis après, pas de pluie pendant des mois, des températures très, très élevées, etc. Donc, ça va être des à-coups. Donc, l'agriculture, ici, mais ce sera pareil dans les autres régions, et ça commence à l'être, hein. On est peut-être une des régions où c'est le plus visible encore. Mais les agriculteurs vont devoir s'adapter à un climat très violent où, finalement, il n'y a plus tellement de normes en termes de météo. Et ça, au niveau agricole, c'est compliqué. C'est compliqué de s'adapter pour dire, tiens, là, par exemple, les agriculteurs doivent semer les céréales d'automne, les blés, les orges, etc. Vu la pluie qui est tombée, ça complique fortement les choses, quoi. Donc ça va être... le combat au niveau agricole, c'est ça. C'est comment on va réussir à avoir des systèmes qui soient résilients à un climat très changeant, certes, mais qui va changer dans plein de directions différentes. Ça, c'est pas évident. Vis-à-vis de l'eau, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui ont besoin de l'eau et de l'irrigation ici en Provence, parce que quand il fait très sec, ça pénalise fortement le rendement des cultures, vous avez des plantes qui transpirent, etc. Et puis l'irrigation, ça peut être... Alors il y a des cultures qui se font au sec, mais les possibilités, si vous voulez, de culture au sec et de diversité de cultures quand on n'a pas l'eau sont réduites. Quand vous avez l'irrigation, ça aide quand même. Ça aide parce que vous allez pouvoir faire un peu de culture au printemps. Donc vous allez éviter d'enchaîner que des cultures d'automne qui se sèment au même moment. Vous allez pouvoir introduire un peu plus de diversité dans vos systèmes agronomiques. Donc ça va aider. Vous allez pouvoir faire pousser des couverts végétaux. Enfin, voilà, on va voir que ça peut être un outil, l'eau, les agriculteurs qui disposent d'irrigation, ça peut être un outil pour faire de l'agroécologie, justement. Après, on peut aussi faire sans, mais c'est plus compliqué, évidemment. Peut-être qu'au niveau agricole, le premier enjeu, c'est avoir des systèmes qui soient capables de retenir l'eau quand elle tombe de manière hyper abondante comme on l'a eu ces derniers jours. Parce que ça a été dit par ma voisine, si on a des sols, parce que la question c'est les sols, hein, au niveau agricole, si on a des sols qui sont pas capables de retenir cette eau-là, bah, c'est de l'eau qui est perdue, non seulement pour le système agricole, donc on sait qu'à d'autres périodes de l'année on va manquer d'eau, et puis on va avoir énormément d'érosion, de terre qui s'en va, etc. Et ça c'est de la fertilité agricole qui s'en va, et ça c'est à terme la capacité, notre capacité de se nourrir aussi qui s'en va. C'est très précieux, les premiers centimètres de terre dans un sol agricole, c'est hyper précieux. Donc il faut la retenir quand elle tombe, et puis il faut la garder quand elle est rare, c'est-à-dire des systèmes agricoles qui soient capables de retenir un petit peu l'eau. Donc il y a plusieurs moyens pour le faire. Bon, on peut faire des retenues d'eau, etc., c'est un moyen. Et il y a aussi plein de leviers agronomiques qui permettent ça. Et le principal levier agronomique pour avoir des systèmes qui soient résilients vis-à-vis de l'eau, c'est d'avoir des sols qui soient pourvus en matière organique. Plus vous avez de matière organique dans votre sol, plus vous avez un sol qui va retenir l'eau. Alors comment on a de la matière organique dans un sol? Il y a plein de solutions pour avoir de la matière organique. Il y a un éventail de solutions. Ça va être le premier, ça va être d'avoir des sols le plus souvent couverts par des végétaux. Donc ça peut être des cultures, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des couverts végétaux. Donc c'est-à-dire des cultures que les agriculteurs implantent pour protéger le sol, pour le nourrir, mais qui sont pas des cultures qui sont récoltées. Donc ça se met entre deux cultures, ça se met en association avec une culture, etc. Ça peut se faire dans tous les systèmes, qu'on soit bio, pas bio, etc. Ça marche pour tout le monde. C'est pas évident en Provence de faire pousser ces couverts végétaux parce qu'on les implante généralement quand il y a rien sur le sol. Donc après, par exemple, on va les implanter dans l'été entre une culture qui va se récolter en juillet et une autre qui va être semée, par exemple, au printemps. Bon, ça, c'est pas évident d'implanter des couverts végétaux en plein été en Provence quand il n'y a pas d'eau. Donc c'est quelque chose de compliqué sur lequel on travaille, nous, à Gribio 04, avec plein de partenaires techniques, les chambres d'agriculture, entre autres. Et voilà, mais il y a des verrous techniques à lever là-dessus. Donc, couvrir les sols et essayer de les travailler le moins possible. Parce que si vous avez des sols qui sont beaucoup travaillés, vous avez des sols qui sont laissés nus, vous avez des sols qui sont laissés libres à tout ce dont on a parlé, hein, tous les aléas climatiques, l'érosion, etc., etc. Puis en plus, vous perdez de la matière organique quand vous travaillez les sols. Donc il faut réussir à les travailler le moins possible. Alors je dis pas ne plus les travailler, parce que c'est, enfin il faut être tout à fait pragmatique là-dedans. Hein, et puis chaque agriculteur pousse les curseurs où il peut en fonction de ses de son environnement, de ce qu'il peut faire, etc. Et puis, ça a été dit par ma voisine, il faut essayer aussi de remettre des arbres dans nos systèmes. Parce que les arbres, ils vont, par leurs racines, retenir l'eau. Ils vont aussi pouvoir permettre de créer un microclimat dans les cultures et par des effets d'ombrage, d'abaisser la température qu'il va y avoir dans les cultures. Ça peut aider en céréales, par exemple, quand on a des grains qui... Au mois de juin, il fait tellement chaud que les grains de blé sont tout petits. Hein, ils ont beaucoup de mal à se remplir. Et puis ça va amener aussi de la fertilité au sol, hein, avec les feuilles qui tombent et qui vont se recycler, etc. Là encore, mettre des arbres dans les cultures en climat provençal, c'est pas simple, parce qu'on a toujours peur évidemment que ces arbres via leurs racines exercent une concurrence en eau très importante sur la culture à laquelle ils sont associés ou sur les cultures auxquelles ils sont associés. Donc là aussi on travaille avec tout un tas d'organismes agricoles sur les références qu'on travaille avec les agriculteurs, parce qu'il y a des agriculteurs évidemment qui se lancent dans tous ces systèmes-là, et l'enjeu c'est d'acquérir des références sur ces systèmes-là en conditions méditerranéennes. Ça c'est central, parce que si on veut que les encourager que les pratiques bougent, que les agriculteurs il faut que les agriculteurs qui soient en avance sur ces techniques-là puissent en parler à ceux qui sont moins en avance. Il faut qu'il y ait des organismes de recherche ou de développement agricole qui viennent aussi objectiver un peu ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe pour transférer des connaissances un peu sur le terrain, en discuter et améliorer tout ça. Voilà, donc ça, c'est des leviers agronomiques. Il y en a plein d'autres, hein, mais je les balaye un peu rapidement. Il peut y avoir tout un tas d'autres leviers aussi pour que l'agriculture puisse s'adapter, parce que l'agriculture, c'est à la fois... une co-responsable, mais aussi une solution formidable pour lutter contre les changements climatiques. Hein. Y a pas de, quand on veut refroidir l'atmosphère, il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre des couverts végétaux, des prairies et des arbres dans nos systèmes agricoles. Voilà. Et donc, il y a plein de leviers chez les agriculteurs. Il pourrait y avoir des leviers génétiques aussi, c'est-à-dire trouver des variétés qui soient plus résistantes au stress hydrique, etc. Là, il y a des leviers très importants là-dessus. Et puis, le deuxième enjeu aussi... Ça a été un petit peu évoqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde l'eau, qu'il faut qu'on la avoir conscience que c'est une ressource précieuse, et il faut qu'on limite aussi évidemment les pollutions qu'il y a dans l'eau. Donc là, c'est des pollutions soit de type nitrate. Donc là, il y a déjà tout un tas de programmes qui se font sur le plateau de Valensole. Vous avez une démarche qui s'appelle Regain, là, qui est animée par la Chambre d'agriculture et plein d'autres partenaires, dans lequel on aide les agriculteurs à ajuster leur fertilisation. Donc, qui peut provoquer des nitrates si elle est mal ajustée, en fonction du climat, des besoins de la culture, etc. Donc, il y a ce premier levier-là. Il y a le fait d'utiliser des engrais plutôt organiques plutôt que des engrais minéraux, parce que, en fait, quand vous avez un engrais minéral, il est directement disponible pour la culture. Un engrais organique, il va favoriser la vie du sol, puisque il va être d'abord décomposé, mangé, on va dire, par la vie du sol, et ensuite rendu disponible pour la culture. Donc si vous mettez de la matière organique dans vos sols, des engrais organiques, vous allez aussi favoriser la vie du sol, vous allez favoriser les vers de terre, les bactéries, les champignons, qui vont se nourrir de cette matière organique et qui ensuite vont augmenter de la matière organique, etc. etc. Donc il y a aussi des cycles vertueux à faire de ce point de vue-là, utiliser des engrais organiques. Et puis après, il y a, donc ça c'est la partie nitrate, et puis il y a la partie évidemment phytosanitaire, ça a été évoqué aussi. Là aussi, il y a des programmes qui existent pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Vous avez sans doute tous entendu parler des programmes éco-phyto, là, qui sont les programmes de l'État, qui sont parfois à tort présentés comme un échec, parce que, alors, c'est sûr que la quantité de produits phyto utilisés au niveau national bouge pas tellement. Par contre, dans ce programme éco-phyto, vous avez ce qu'on appelle des fermes pilotes, avec des agriculteurs qui ont été suivis de près et qui ont vraiment réussi à diminuer les doses de produits phytosanitaires utilisés. Donc il y a des vraies réussites à partager sur le terrain. Et puis vous avez évidemment la conversion à l'agriculture biologique aussi, qui est, de ce point de vue-là, une agriculture vertueuse, puisqu'on est sur des engrais organiques, on est sur l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, même s'il peut y avoir des produits phytosanitaires d'origine naturelle autorisés, mais donc il y a un impact moindre sur la qualité des eaux. Vous avez des villes en Allemagne, en France, dans le Jura, qui ont mis en place des contrats avec des agriculteurs pour les pousser un peu et les encourager à la conversion au bio.
On sent la passion, Mathieu Marguerie, on sent l'expertise également, ça fait du bien. Peut-être une question dans la salle ou une réaction éventuellement.
Juste une question. Au-delà de toute la technologie apportée sur un nouveau mode de gestion des sols et d'enrichissement des sols, est-ce que sérieusement, il ne va pas falloir penser à carrément changer de production végétale sur un territoire et on le dit parfois sous forme de boutade, planter des palmiers dattiers ou du sorgho dans quelques années dans PACA.
Alors, le sorgho, c'est déjà fait, puisque de plus en plus d'agriculteurs mettent en place du sorgho. Oui, si, c'est sûr. En fait, il faut jouer sur plein de tableaux. Là, j'ai évoqué plein de leviers, il faut les hiérarchiser. Mais le premier levier, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur le système global de production. Donc, tout ce qu'on a raconté sur les sols, etc. Mais pour ça, il faut que les agriculteurs soient accompagnés là-dedans aussi. Il suffit pas de leur dire de changer pour que ça change, hein. C'est pas vrai. Et après, oui, il y a des leviers qui vont être génétiques, etc. On en a parlé. Et sur le changement de culture, oui, il va falloir se poser aussi des questions sur les cultures qui vont être difficilement réalisables ou alors dont l'énergie dépensée pour les faire dans notre région d'ici quelques années va faire qu'on n'arrivera plus à les faire, quoi. Donc là, il faut se tourner aussi vers ce qui se fait plus au sud, en Espagne, au Portugal, sur l'autre rive de la Méditerranée, même si on...
On va en parler dans un instant.
Ah ben voilà, très bien.
Vous avez parlé des cultures, et c'est très bien, et moi je vous connais, et je connais votre travail. Par contre, il ne faudrait pas oublier l'élevage, qui, pour l'apport en matière organique, entre autres, est très important, et les pâtures et tout ça, voilà.
Alors, je vous rejoins à plus que 100%, parce que... Il faut, à mon avis, bien penser qu'on n'arrivera pas à faire d'agroécologie durable sans élevage. Parce que les prairies, donc, qui sont utilisées en élevage, c'est les meilleurs puits de carbone qu'on puisse avoir au niveau agricole. Des fois même, selon certaines études, avant les forêts, puisque les forêts, au bout d'un moment, elles arrêtent de croître et de capter du carbone. Voilà. Et puis, l'intégration, la matière organique, vous l'avez dit, c'est un levier... Si on veut se passer progressivement ou diminuer les usages d'engrais minéraux, l'élevage, c'est quand même un moyen considérable d'avoir de la matière organique dans nos systèmes. L'élevage, c'est un moyen de valoriser des terres aussi sur lesquelles on pourra jamais rien cultiver, des terres très en pente, des plateaux arides, etc. Donc oui, bien sûr, quand on parle durabilité, quand on parle climat, il faut aussi parler élevage. Alors évidemment, il faut pas parler élevage intensif, il faut parler élevage... paysans, il faut parler élevage local, il faut parler, voilà, il faut parler manger sans doute moins de viande mais de meilleure qualité et se centrer sur des élevages qui soient vraiment intégrés à leur territoire. Sinon, vous allez avoir ce qui s'est passé dans le bassin parisien où on a séparé complètement l'élevage et les cultures, où on a simplifié les systèmes agricoles qui posent beaucoup de problèmes environnementaux et puis de l'autre côté, vous avez des régions qui se sont spécialisées où il y a énormément d'élevage et ça pose aussi d'autres problèmes environnementaux. Donc il faut réussir à reconnecter tout ça. Ce qui n'est pas évident, mais voilà, il faut le faire.
Merci Mathieu Marguerie pour cet éclairage. Vous allez passer le micro à votre voisin. Michel Teul, vous êtes sociologue, vous êtes membre du collectif Autre avec un S. Vous allez évoquer le projet de coopération leader en France, Portugal et Algérie sur la question de la nouvelle culture de l'eau. Expliquez-nous.
Oui, alors il y a ce projet, mais avant tout, je voudrais dire, j'y viendrai ensuite, mais la question de la nouvelle culture de l'eau, c'est au point de départ, c'est prendre, ça a été évoqué plusieurs fois et de plusieurs manières, le système, l'eau comme un système complet et unique. C'est-à-dire que l'eau, c'est un. Bon, ça a été dit, on perd de l'eau mais l'eau, elle disparaît pas. Le volume de l'eau est toujours constant sur Terre, quel qu'il soit. Ce qui pose problème, c'est comment on le capte, c'est sa répartition, c'est la solidarité entre les territoires, c'est la qualité de l'eau aussi. On a beaucoup de territoires sur lesquels il y a de l'eau de mauvaise qualité, qui génère des problèmes sanitaires, de l'eau déficiente pour les systèmes agricoles, etc. Et puis de l'eau non potable pour tout un chacun. Donc la question de la qualité de l'eau, de son approvisionnement, c'est-à-dire que le système de l'eau, c'est captage, distribution, gestion, utilisation au pluriel, l'agriculture, l'industrie, les citoyens, tous les citoyens, sachant que les agriculteurs, les industriels, les élus et les autres sont tous des citoyens aussi, donc on est tous concernés par le même problème. Et puis la restitution. La question de la restitution a été posée plusieurs fois, c'est comment on rend l'eau au système eau pour qu'elle soit utilisable. Et donc il y a des systèmes pour travailler sur les eaux grises pour l'agriculture, pour y compris faire des rejets non pollués, moins pollués ou non pollués, quitte à ce qu'ils partent, rejoindre le système général, peu importe, et les nappes phréatiques. Et pour ça, effectivement, nous avons mis en partenariat avec l'agglomération Provence, Alpes-Agglomération, et plus particulièrement le territoire Durance-Provence, qui est représenté par le GAL, ici présent, le groupe d'action locale, sur une coopération dans le cadre du programme FEDER, qui est un programme européen de coopération entre territoires agricoles. Et pour le moment, donc, c'était ouvert. Nous avons contacté au départ. Nous étions en relation avec un GAL du Gard, mais aussi le grand site, je pense qu'on y viendra, le grand site Gardon, l'appellation, je ne m'en souviens plus précisément, pardon, mais aussi avec, ce n'est pas le climat méditerranéen, mais les problématiques se posent aussi de plus en plus, comme dans le climat méditerranéen, c'est avec le Doubs. Donc on est dans l'est de la France, sur un territoire karstique. On a évoqué la question du karst, qui n'est pas celle peut-être ici généralisée, mais en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous en avons quelques exemples. Et puis la Kabylie, qui se trouve, ou en tout cas la municipalité de, enfin le territoire de Tizi Ouzou et des municipalités autour, qui se pose énormément de questions sur la question de la qualité des eaux et de l'approvisionnement, et alors qu'il y a de l'eau, mais elle n'est pas nécessairement disponible et elle est surtout extrêmement polluée, y compris quand la réserve d'eau se trouve à 2000 mètres d'altitude, loin de toute habitation. Pour différents motifs, on ne rentre pas dans le détail maintenant. Et en fait, notre dernier partenaire, pour le moment, c'est aussi l'île de Madère, qui nous a semblé être un cas tout à fait intéressant. D'abord parce qu'à Madère, on se pose les questions. C'est un laboratoire à part entière. Une île, c'est un laboratoire à part entière. C'est un laboratoire grandeur nature. C'est plus qu'un laboratoire, parce qu'il y a des gens qui y vivent quand même. Mais il y a des solutions spécifiques qui viennent des îles et qui sont tout à fait intéressantes pour nous tous. Parce que c'est une question de survie aussi. L'eau, on n'importe pas de l'eau dans une île, par exemple. Et désaliniser la mer, ce n'est pas non plus la meilleure des solutions.
Concrètement, qu'est-ce que vous faites collectivement pour ces trois pays et ces quatre territoires ?
Alors collectivement, ce que nous essayons, nous n'en sommes qu'aux prémices de notre travail de coopération. Nous en sommes à définir à partir de ce que nous faisons les uns les autres sur le territoire et ce que nous avons l'ambition de faire aussi. Des objets communs qui seront plutôt sans doute autour des questions d'approvisionnement en eau. Effectivement, la question des réseaux, elle est constante. La question de la qualité des eaux et de la restitution et puis la solidarité entre les territoires, essentiellement. Ce qu'il y a aussi, c'est que ici, nous en sommes qu'aux prémices du travail et ce qui est sur le territoire local, parce qu'on doit partir et partager. Donc l'idée, c'est d'essaimer aussi les expériences des uns et des autres, de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres, des problèmes rencontrés par les uns et les autres. La Kabylie a de gros problèmes, mais qui peuvent nous enrichir dans notre réflexion sur les manières d'agir.
La Kabylie n'est pas en Europe, mais pourtant peut bénéficier des fonds européens dans ce dispositif.
Alors ça, il faudrait demander la
technique, tout ça.
Oui, il y a effectivement des possibilités qui ne sont pas les mêmes que ceux du FEDER, bien entendu. Toutes les actions ne sont pas... chaque territoire finance son action et nous finançons ensemble avec les fonds européens une action commune.
On voit bien qu'il y a une dynamique qui est intéressante et qui va dans le bon sens, avec des différences territoriales, voilà. Politiques
oui,
et
justement, moi, je voudrais terminer rapidement sur le territoire ici. C'est qu'aujourd'hui, nous en sommes, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés de différentes manières. Qu'on a un tissu riche pour avoir des réflexions et mettre en place des actions spécifiques. Et c'est notre objectif à partir d'aujourd'hui. Et bon, on a déjà commencé un petit peu à prendre quelques contacts. Mais c'est notre objectif de pouvoir définir avec des acteurs du territoire de quelle manière on va entrer dans des actions concrètes qu'on va pouvoir mettre au bénéfice aussi d'une coopération au niveau méditerranéen et plus large, puisqu'il y a, je parlais du Doubs tout à l'heure.
Avec également la notion de solidarité qui est importante. Merci beaucoup, Michel Teul. Notre dernier intervenant, Daniel Munck, vous êtes coordinateur de l'Institut languedocien de la Pierre Sèche dans le Gard, et votre intervention va porter sur quelque chose qui est paradoxal, à la fois les zones humides, mais aussi la Pierre Sèche.
C'est ça. Donc, juste pour préciser, je travaille pour le grand site des Gorges du Gardon. Alors, on le confond souvent avec le Verdon. Donc, je précise, on est le Gardon. Donc, en gros, c'est les 30 km de rivière en amont du pont du Gard, à proximité de Nîmes. Et ma spécialité, c'est la pierre sèche. Et pierre sèche et eau, effectivement, ça paraît extrêmement contradictoire. Alors, pour la pierre sèche, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, la pierre sèche, c'est une technique agricole qui est très ancienne, qui a été labellisée par l'UNESCO l'an dernier. Et en gros, c'est tout ce qui est bâti en assemblant des pierres, en les agençant de façon à ce que ça tienne tout seul. Donc tous les paysages de terrasses, les restanques, les faïs, les béales, tous ces équipements-là donc qui ont connu un développement très fort du XVIIe au XIXe siècle et qui sont aujourd'hui omniprésents dans le paysage. Souvent, ils sont recouverts par la végétation, on les a oubliés. Et c'est les témoins aussi d'une époque où il n'existait pas d'adduction d'eau, il n'y avait pas d'eau courante dans les villages, mais en revanche, il y avait, on a parlé de génie tout à l'heure, il y avait un génie de l'utilisation de l'eau à travers ces ouvrages. Et pierre sèche, il faut savoir que c'est avant tout de la gestion de l'eau. Et dans les territoires méditerranéens où on se trouve, la problématique de l'eau, en gros, soit il y en a trop, comme on a eu cette semaine. Dans ce cas, il faut l'évacuer de façon à ce que ça fasse le moins de dégâts possible. Soit il n'y en a pas assez, et dans ce cas, il faut être capable de la stocker pour la réutiliser au bon moment, souvent pour des pratiques agricoles. Et donc là, on parle d'adaptation au changement climatique. Ce que je veux vous montrer, moi, c'est que ce patrimoine, en fait, le changement climatique, on a eu des scénarios qui ont été présentés. On sait qu'il y a une incertitude, mais en gros, on sait quand même qu'il va y avoir de plus en plus de périodes de sécheresse. Donc il va falloir être capable de stocker cette eau, et on va avoir de plus en plus d'épisodes extrêmes, donc il va falloir être capable d'évacuer cette eau. Et le but de mon intervention, c'est de vous dire que tout ce patrimoine qui est présent partout, qui est omniprésent dans les vallées, dans les alpages, les estives et tout, c'est un patrimoine qui, aujourd'hui, même dégradé, il continue à rendre des services par rapport à ça. Pour vous donner une anecdote, il y a 2 ans, j'ai été sollicité par le département du Gard, qui m'a dit, on a créé un rond-point dans un village près de Nîmes, et depuis, à chaque fois qu'il y a une pluie importante, on a une coulée de boue dans le village. Alors, quand on va regarder, on se rend compte que ce rond-point, il a coupé un ancien mur en pierre sèche, qui avait pour fonction de réguler, en fait, ça. Donc, alors, je vous dis pas qu'il faut tout rebâtir en pierre sèche. C'est pas adapté économiquement, et la pierre sèche, c'est une solution qui se joue à l'échelle de la parcelle locale. Simplement, si vous faites une intervention sur un terrain agricole dans une commune, s'il y a du patrimoine à pierre sèche, commencez par vous demander ce qu'il faisait là et à quoi il servait. Parce que quand on bâtir à pierre sèche, c'est très long. Pour bâtir 1 mètre carré de mur, il faut une journée, en gros. Si les gens se donnaient l'effort de le faire, il y avait une raison. Donc avant de détruire ce patrimoine, regardez ce qu'il rend comme service et si possible, maintenez-le. Parce que très souvent, ce sont des services qui sont liés à l'eau. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je dirais aussi que si c'est un patrimoine qui est très dégradé, de reconstruire, ça peut être compliqué économiquement. Mais en revanche, s'il est en assez bon état, l'entretenir et le faire durer éternellement, ça, c'est beaucoup plus simple. Ça peut se jouer de façon locale avec des gens qui savent simplement rebâtir. Donc, quand on regarde ce patrimoine, en gros, vous avez, quand il y a trop d'eau, un réseau de terrasses, c'est quelque chose qui va ralentir le ruissellement de l'eau. Et souvent, quand on a des pluies importantes, ça va être chargé en limon. Les terres fertiles vont partir avec. Ces terrasses vont donner au limon le temps de se déposer et l'eau va passer à travers les murs. Simplement s'évacuer et elle va être ralentie. Elle aura un pouvoir destructeur moins important. Donc c'est par rapport à ça, c'est très important. Ici, il y a pas mal de seuils de correction torrentielle. On peut avoir des anciens seuils qui étaient bâtis à pierre sèche. Donc ce sont des choses qui sont à maintenir. Le deuxième message, ça concerne le fait de... Donc là, je vous ai parlé un peu du cas où il faut évacuer l'eau. Dans le cas où il faut économiser l'eau pour la réutiliser, vous avez ici, vous avez toute une culture des mines d'eau. On avait des aiguillers. Tous les anciens, ils avaient des aiguillers, ils collectaient cette eau. Ça, c'est des choses... Aujourd'hui, chez nous, on a un problème de fermeture de la garrigue. On bosse beaucoup sur l'installation de maraîchers qui alimentent des circuits courts. Pour nous, ces équipements anciens de stockage d'eau, l'idée, c'est de les conserver et, si possible, de les remettre en service pour qu'ils puissent servir dans des pratiques culturelles. Quelqu'un parlait d'élevage tout à l'heure. Ces dernières années, on a construit 4 lavognes dans les garrigues autour de Nîmes qui servent principalement à faire revenir de l'agropastoralisme. Donc nous, ça nous permet d'installer des éleveurs en fait qui vont maintenir les milieux ouverts et ça va permettre de maintenir les grands rapaces. Enfin, on joue sur les chaînes trophiques globales. Et je dirais un avantage annexe. Nous, on est en garrigue. C'est très sec. C'est un peu comme le maquis par ici. Ça va être aussi des réservoirs de biodiversité. C'est-à-dire que ces lavognes vont créer des habitats et on va avoir des explosions de population, notamment autour des batraciens, des odonates, etc. Donc, le message que je vais vous faire passer simplement, c'est tout ce patrimoine qui est omniprésent, ayez conscience de sa présence, de son utilité et faites ce qu'il faut pour le maintenir quand c'est possible. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Daniel Munck. On sent bien le poids et la leçon du passé dans ce que vous dites. Et la modernité là-dedans, il y a quelque chose d'un peu plus récent ?
Oui, alors les bonnes nouvelles, la modernité, alors la pierre sèche, tout le monde aime bien la pierre sèche parce que c'est joli, ça fait bien sur la carte postale, etc. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un peu le truc, vous savez, c'est le syndrome du nain de jardin. C'est joli, mais c'est un peu la caution. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, depuis 30 ans, ça change complètement. Le point de départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 88, il y a eu une inondation catastrophique à Nîmes. Et suite à ça, il y a eu un constat. À Nîmes, il y a beaucoup de pierres sèches sur les hauteurs. Il y a eu un constat qui a été que partout où il y avait des murs en pierres sèches, les dégâts avaient été amoindris. Suite à ça, les ponts et chaussées, l'école centrale de Lyon, donc des petites épiceries de quartier, se sont dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire autour de la pierre sèche. Et donc, depuis, ils ont financé 6 thèses en génie civil sur le comportement des ouvrages en pierre sèche. L'enjeu étant notamment, quand vous faites, par exemple, un soutènement routier en pierre sèche, il vous faut être capable de prouver aujourd'hui qu'il va résister au passage d'un grumier de 60 tonnes à 1 mètre du bord. Ça, aujourd'hui, on sait le faire grâce à ces thèses. Et on a depuis 2010 un diplôme de formation bâtisseur en pierre sèche qui a été créé. Vous avez 170 professionnels diplômés aujourd'hui en France et on en sort une quinzaine de nouveaux chaque année. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce savoir-faire, en fait, qui a failli disparaître, il est sauvé. Il est sauvé. On a des professionnels qui le font vivre. On est en train de créer des assurances spécifiques. Vous savez que tout le monde demande la décennale. Aujourd'hui, la pierre sèche est prise en compte dans les décennales. Donc le métier, en fait, il est en train de revivre. Tout ça grâce à l'action de... On va dire qu'il y a eu une conjonction des bonnes fées qui se sont penchées. En gros, ça s'est joué entre le Parc des Cévennes, le Luberon, la Chambre des métiers d'Avignon, qui ont fait revivre le métier. Et aujourd'hui, vous avez des associations professionnelles. C'est extrêmement dynamique. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, la pierre sèche, elle est en train de faire son retour dans la modernité.
Et c'est une excellente chose. Merci beaucoup, Daniel Munck. Je crois qu'on arrive à la fin. Alors, je voulais remercier évidemment tous les intervenants qui sont passés dans ce plateau. Et puis, vous dire aussi que la journée n'est pas finie, hein, bien sûr. Cet après-midi, au musée promenade du Géoparc, il y aura une conférence balade. Et ça, au plus près de la nature, c'est un bonheur. Merci à tous et à bientôt.